Histoire de la Réformation du XVIe siècle, 16-8. Changement imprévu. Lavater et Zwingli. Avantage des Zurichois. Toute l'armée s'avance. Terrible mêlée. La grande bannière. Mort du banneret Camli et de Naef. La bannière en danger. La bannière sauvée. Massacre. Gérold de Knanau. Mort des ministres. Zwingli blessé. Dernière parole de Zwingli. L'armée fait halte. Fanatisme des vainqueurs. La fournaise de l'épreuve. Mort de Zwingli. Compassion. Le bivac. Le cadavre de Zwingli. Hommage et outrage. Dans ce moment, les Zurichois faisaient une manœuvre qui, destinée à les sauver, les perdit. Un grand danger nous menace, avait dit l'un d'eux. L'ennemi, occupant maintenant la hauteur entre Ebertschwil et Cappel, peut passer dans le bois du Kalkschöffen, du côté de l'Albis, traverser les prairies d'Imlor, se jeter sur nos derrières, s'emparer de Hussein, et, nous coupant la route de Zurich, arrêter les renforts qui doivent nous arriver de la ville. À 600 pas d'ici s'élève près de la route un mamelon, le Munchbull, qui a l'Imlor à ses pieds et qui commande tout le revers du bois de Hêtre. Plaçons-y en hâte des canons et des arquebusiers pour arrêter les Wallstädte et faisons dire à ceux qui viennent de Zurich de s'y rallier. Ce conseil était sage, mais une faute que l'on commit en le suivant devait hâter la perte des réformés. On aurait dû laisser à leur poste les artilleurs et les arquebusiers qui faisaient face au bois du côté de l'ennemi afin qu'ils puissent faire feu en cas d'attaque. C'était sur les derrières de l'armée qu'il fallait prendre le détachement chargé d'occuper le mamelon. Malheureusement, on prit le corps placé en avant et l'on dégarnit ainsi cette position importante. La troupe se mit en marche pour le Munchbull en se rapprochant un peu du bois. Au moment même où les arquebusiers de Schorr, cachés sous les hêtres, cherchaient leur point de mire, ce détachement passait à portée des arbres et des Wallstädte qui s'y tenaient en embuscade. Le plus complet silence règne dans cette solitude. Rien n'y fait prévoir le moindre péril, alors même que chacun choisit l'homme qu'il veut abattre. Jacques, saisissant l'occasion favorable, s'écrie « Au nom de la Sainte Trinité, de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de la Sainte Mère de Dieu et de toute l'armée céleste, feu !» À l'instant, la balle mortelle part de tous ces arbres, et cette foudroyante décharge porte la mort dans les rangs zurichois. La bataille, qui avait commencé à 1 heure et avait eu diverses phases sans pouvoir se décider, subit alors un changement imprévu. L'épée ne doit plus être remise dans le fourreau qu'après s'être baignée dans des torrents de sang. Ceux d'entre les zurichois que ce premier coup n'avait pas atteint se couchent d'abord à plat ventre, de manière à ce que les balles passent au-dessus de leur tête. Mais bientôt ils se relèvent en disant « Voulons-nous nous laisser égorger ? Non, attaquons plutôt l'ennemi. » Lavater comprend que le moment fatal est arrivé. Il saisit une lance et, se jetant au premier rang, « Soldats, s'écrie-t-il, soutenez l'honneur de Dieu et de mes seigneurs, et comportez-vous en brave. » Zwingle, une hallebarde à la main, silencieux et recueilli, comme la nature au moment où la tempête va éclater, était aussi là. « Maître Ulrich, lui dit Bernard Spengli, parlez au peuple et l'encouragez. » « Brave, s'écria Zwingle, ne craignez rien. Si même nous devons être maintenant frappés, notre cause n'en est pas moins bonne. Recommandez-vous à Dieu, qui, seul, peut prendre soin de nous et des nôtres. Dieu soit avec vous. » Zwingle, ne doutez plus de la funeste issue de cette bataille. C'était la dernière parole qu'il devait adresser à son peuple. Les Uriquois ne perdent pas courage. Ils tournent en hâte l'artillerie qu'ils conduisent et la dirigent du côté du bois. Mais dans le désordre où ils se trouvaient, ils pointent mal, et leurs boulets, au lieu de frapper l'ennemi, atteignent le haut des arbres et font seulement tomber quelques branches sur les tirailleurs de Jaur. Le Landamman de Schwitz, Richmuth, arrivait en hâte pour sommer les volontaires de retourner au camp. Mais voyant la bataille engagée, Richmuth se joint aux assaillants et ordonne à toute l'armée d'avancer. Aussitôt les cinq bannières s'ébranlent. Mais déjà, les tirailleurs de Jaur, sortant du milieu des arbres où ils se tenaient cachés, s'étaient jetés avec impétuosité sur les Uriquois, en leur présentant les fers longs, larges et pointus de leur hallebarde. « Hérétique, sacrilège, s'écrie-t-il, enfin, nous vous trouvons. » Vendeur d'hommes, idolâtre, papiste, impie, répondaient les Uriquois, vous voilà donc, enfin. Une grêle de pierre tomba d'abord des deux côtés et en blessa plusieurs. Puis, aussitôt après, on en vint aux mains. La résistance des Uriquois fut opiniâtre. Chacun frappait de l'épée et de la hallebarde. Enfin, les hommes des cinq cantons sont enfoncés et reculent. Les Uriquois avancent. Mais en le faisant, ils perdent l'avantage de leur position et s'engagent dans un marais. Quelques historiens catholiques romains prétendent même que cette fuite des leurs ne fut qu'une ruse pour attirer les Uriquois dans le piège. À deux reprises, les Uriquois repoussèrent les Wallstedt en sorte que plusieurs crurent que la victoire leur demeurait. Cette indécision ne devait pas durer. L'armée des cinq cantons, dont le bruit des canons uriquois hâtait la marche, accourait à travers le bois au secours de son avant-garde. Ces guerriers, pleins de courage et de colère, précipitaient leurs pas, et l'on entendait retentir du milieu des hêtres un bruit sauvage, plein de confusion et de désordre, un retentissement affreux. Le sol tremblait, et l'on eût dit que la forêt poussait un horrible mugissement, ou que les sorciers y tenait un sabbat nocturne. Alors commença une terrible mêlée. Les combattants étaient tellement serrés que quelques Uriquois disaient à ceux des leurs qui venaient derrière eux, « Ne nous pressez donc pas si fort que nous puissions au moins nous mouvoir. » D'autres, ne pouvant plus se servir de leurs arquebuses, criaient, « Les armes blanches, les armes blanches !» Mais tout était inutile. Jamais il n'y eut à la fois dans une armée tant de valeur et tant de désordre. En vain, les plus courageux des Uriquois font-ils une intrépide résistance. Les Wallstedt ont partout l'avantage. Les plus avancés des réformés tombent sous leurs coups, et l'alarme se répand rapidement dans le reste de la petite armée. Sur les derrières, près du pont jeté sur le ruisseau du Mule, se montre bientôt une horrible confusion. Quelques-uns des hommes qui allaient s'emparer du Munschul, effrayés de la décharge de l'ennemi, avaient pris la fuite du côté de Husen, tandis que les Uriquois, postés près du ruisseau, voyant qu'on en venait aux mains, s'étaient précipités vers l'ennemi. Ces deux courants opposés se rencontrant derrière le champ de bataille, il en résulta un choc affreux et un immense désordre. Les soldats qui fuyaient et ceux qui s'avançaient se heurtaient les uns dans les autres. Ils chancelaient les tombes. Les Wallstedt, à cette vue, s'écrient avec enthousiasme. « Courage, vaillants confédérés ! Les hérétiques prennent la fuite !» Ces paroles parviennent jusqu'aux rangs les plus reculés de l'armée et tous répètent « Les hérétiques prennent la fuite !» Les Uriquois qui s'étaient portés en avant étaient, au contraire, alors aux prises avec l'ennemi et, ne sachant ce qui se passait derrière eux, ils répondent en frappant de l'épée « Vous mentez, scélérats !» En ce moment, un nouveau danger vint fondre sur la petite troupe zurichoise. Un détachement des 5 cantons l'attaqua du côté du couvent, en passant près de la laiterie. Alors, la déroute des Uriquois fut complète. « On nous enveloppe, disent les uns. Les nôtres s'enfuient, s'écrient les autres. » Un catholique du canton de Sug, mêlé aux protestants, fait semblant d'être des leurs et augmente le désordre en criant « Fuyez, fuyez, braves Uriquois, vous êtes trahis !» Ainsi, tout s'élève contre Zurich. La main même de celui qui dispose des batailles se tourne contre ce peuple et le châtie, comme jadis il châtia Israël par les mains des Assyriens. L'heure de son humiliation est arrivée. Une terreur panique s'empare des plus braves. Ils ont ouï un bruit d'effroi, et l'épouvante de l'Éternel est sur eux. Le vieux Schweizer avait élevé d'une main ferme la grande bannière, et toute l'élite de Zurich s'était rangée autour d'elle. Mais bientôt les rangs s'étaient éclaircis. Jean Camely, commis à la garde de l'étendard, ayant vu le petit nombre de combattants qui se trouvaient sur le champ de bataille, dit au banneret « Abaissons la bannière, monseigneur, et sauvons-la, car nos gens fuient honteusement. »« Brave, demeurez ferme, répondit le vieux banneret, qu'aucun danger n'avait jamais ébranlé. » Le désordre augmentait. Le nombre des fuyards s'accroissait à chaque instant. Le vieillard restait étonné, immobile, comme un chêne antique battu par un affreux orage. Il recevait sans broncher les coups qu'il atteignait, tenant courageusement son étendard et faisant seul face à ce terrible assaut. Camely le saisit par le bras. « Monseigneur, dit-il encore, baissez la bannière ou nous allons la perdre. Il n'y a plus ici de gloire à recueillir. » Le vieux banneret, déjà blessé à mort, s'écrie « Hélas, faut-il que la ville de Zurich soit ainsi frappée ?» Puis, entraîné par Camely qui marche devant lui, il baisse la bannière, recule avec la foule et arrive jusqu'au ruisseau. La pesanteur de l'âge et les blessures dont il était couvert ne lui permirent pas de le franchir. Schweizer tomba dans le mulet, tenant toujours en main son étendard glorieux, dont les plis vinrent s'abattre sur l'autre bord. Les ennemis accouraient à grands cris, attirés par les couleurs de Zurich, comme des taureaux par le drapeau des gladiateurs. Camely, à cette vue, se jette sans hésiter au fond du fossé et saisit la main roide et mourante de son chef afin de sauver le signe précieux qu'elle serrait fortement. Mais c'est en vain. La main du vieux Schweizer ne veut pas lâcher l'étendard. « Seigneur banneret, lui crie le fidèle serviteur, il n'est plus en votre pouvoir de le défendre. » La main du banneret, déjà roide, s'y refuse encore. Alors, Camli arrache violemment l'étendard sacré, s'élance d'un saut sur l'autre bord, et se précipite avec son trésor, loin des pas de l'ennemi, dans le marais de Helgen. Les derniers Uriquois arrivent en ce moment vers le torrent, tombent l'un après l'autre sur le vieillard expirant, et hâtent ainsi sa mort. Cependant, Camli, ayant reçu un coup de feu, sa marche en fut retardée, et bientôt les Waltset l'entourèrent de leurs piques et de leurs glaives. Le Zurichois, tenant d'une main la bannière et de l'autre son épée, se défend courageusement. L'un des Waltset s'attaque au bois de l'étendard. Un autre saisit la bannière même et la déchire. Camli, d'un coup d'épée, renverse le premier, et frappant autour de lui, il s'écrie : Au secours, braves Uriquois, venez sauver l'honneur et la bannière de mes seigneurs. Les assaillants augmentent en nombre, et le brave allait succomber quand Adam Naef de Nolenweed s'élance, l'épée à la main, et fait rouler sur le champ de bataille la tête du Valstedt qui avait déchiré le drapeau, et dont le sang rejaillit sur les couleurs de Zurich. Le conseil, pour témoigner sa reconnaissance, donna à Naef le terrain des granges. Ses descendants y habitent encore. Ils sont comme les gardiens du champ de bataille. Dumizen, membre du petit conseil, le soutient de sa hallebarde, et tous deux portent à droite et à gauche de tels coups qu'ils font tomber les assaillants et parviennent à dégager l'enseigne. Celui-ci, quoique dangereusement blessé, s'élance, tenant d'une main les plis ensanglantés de la bannière qu'il emporte précipitamment et dont la lance traîne après lui. L'air farouche, le regard enflammé, l'épée à la main, il passe ainsi au milieu de ses amis et de ses ennemis. Il traverse plaines, bois et marécages, laissant partout des traces de son sang qui s'échappent de nombreuses blessures, et remplissant d'étonnement ceux qui le rencontrent. Deux des Waltset, l'un de Schwitz, l'autre de Zug, étaient surtout acharnés à sa poursuite. « Hérétique, scélérat, lui crièrent-ils, rends-toi et remets-nous ta bannière. » Avant que de la voir, vous aurez ma vie, répondit le Zurichois. Alors les deux soldats ennemis, que la cuirasse embarrassait, s'arrêtèrent un moment pour la défaire. Camli en profita pour prendre de l'avance. Le colonel général Dumizen, qui s'était battu comme un soldat pour sauver l'étendard du Zurich, arrive près de l'église de Husen. Il tombe sans vie. Et deux de ses fils à la fleur de l'âge couvrent bientôt aussi le sol funeste qui a bu le sang de leur père. Camli fait encore quelques pas, mais bientôt il s'arrête, épuisé, haletant, près d'une haie qu'il lui eût fallu franchir et après laquelle il lui restait à gravir la partie la plus escarpée du mont d'Albis. Camli découvre ses deux ennemis et d'autres Waltset qui volent de tous côtés, comme des oiseaux de proie, vers l'étendard chancelant de Zurich. Les forces de Camli diminuent rapidement. Sa vue se trouble. Bientôt, des ténèbres l'entourent. Une main de plomb le retient, cloué sur le sol. Alors, ranimant son énergie expirante, il lance l'étendard de l'autre côté de la haie et s'écrie : Y a-t-il ici quelques braves Uriquois ? Qu'ils sauvent la bannière et la gloire de mes seigneurs. Pour moi, je ne le puis plus. Et, Jetant vers le ciel un dernier regard, il ajoute « Dieu me soit en aide ». Anéanti par ce dernier effort, il tombe. Danzler, qui arrivait, jette loin de lui son épée, saute par-dessus la haie, saisit la bannière et s'écrie « Avec l'aide de Dieu, je l'emporterai ». Puis, il monte précipitamment l'Albis et met enfin en sûreté l'antique étendard de Zurich. Dieu, en qui ces guerriers plaçaient leur espoir, avait exaucé leur prière. Mais il en avait coûté à la République son sang le plus précieux. Sur tous les points, l'ennemi était vainqueur. Il n'y a plus de bataille au champ de Capel, il n'y a qu'un massacre. Les soldats des cinq cantons, surtout ceux d'Underwald, longtemps endurcis dans les guerres du Milanais, se montraient plus cruels envers leurs confédérés qu'ils ne l'avaient été envers des étrangers. Les citoyens les plus distingués de Zurich tombaient l'un après l'autre sous leurs coups. Rudi Gallmann avait trouvé cette glorieuse tombe qu'il avait désirée, et ses deux frères, étendus à sa droite et à sa gauche, avaient laissé déserte la maison de leur père. Le capitaine des arquebusiers, Tönning, était, comme il l'avait dit, mort pour la patrie. Toute l'élite de la population zurichoise, 7 membres du petit conseil, 19 membres des 200, 65 citoyens de la ville, 417 de la campagne, le père au milieu de ses fils, le frère au milieu de ses frères, se trouvaient couchés, pâles et sanglants sur le champ de bataille. Gérold Meyer de Knonau, le fils d'Anna, alors âgé de 22 ans, déjà membre du conseil des 200, époux et père, s'était élancé au premier rang avec tout le feu de la jeunesse. « Rendez-vous et votre vie sera sauve », lui avaient crié quelques braves des cinq cantons qui désiraient le sauver. « Mieux me vaut mourir avec honneur », avait-il répondu, « que de me rendre avec ignominie. » Et le fils d'Anna, frappé aussitôt d'un coup mortel, était tombé et avait rendu l'âme non loin du château de ses pères. Les ministres qui, oubliant l'évangile de paix, avaient appelé aux armes leurs compatriotes, furent ceux qui, eu égard à leur nombre, fournirent le plus de victimes dans cette sanglante journée. Le glaive qui se promenait sur les hauteurs et dans les prairies de Capel s'acharnait sur eux. 25 d'entre eux tombèrent sous ses coups. Les Wallstedt frémissait de rage quand il découvrait l'un de ses prêtres hérétiques, et il les immolait avec enthousiasme comme des victimes de choix à la Vierge et aux saints. Il n'y a peut-être jamais eu de bataille où tant d'hommes de la parole de Dieu aient mordu la poussière. Presque partout, les pasteurs avaient marché à la tête de leurs troupeaux. On eût dit à Capel une assemblée de communautés chrétiennes plutôt qu'une armée de compagnies suisses. L'abbé Jonner, blessé à mort près du ruisseau, expira en vue de son monastère. Et les gens de Fuc, qui, en poursuivant l'ennemi, passaient près de son cadavre, poussaient un cri de douleur, se souvenant du bien qu'il leur avait fait. Schmidt de Küsnacht, placé au milieu de ses paroissiens, tomba, entouré de 40 de leurs cadavres. Gérold Steck, Jean Haller, plusieurs autres pasteurs à la tête de leurs troupeaux, d'anciens augustins, d'anciens dominicains, rencontrèrent d'une manière terrible cette venue soudaine du Seigneur qu'ils avaient plus d'une fois prêchée. La gloire de l'Éternel s'était éloigné de Zurich. Les chefs de l'État et les chefs de l'Église couvraient pêle-mêle le champ de bataille. Mais une mort, allait dépasser en amertume toutes ses morts. Zwingle était au milieu de ses paroissiens, affrontant le danger, le casque en tête, le glaive suspendu à ses côtés, la hache d'armes à la main, la parole de Dieu dans le cœur. Calme et recueilli, il se tenait prêt à porter les secours de son ministère partout où l'on en aurait besoin, quand un de ses amis, Balthazar Keller, gendre d'Anna, tomba non loin de lui, couvert de 13 blessures. Zwingle accourt vers le blessé et lui adresse des paroles de vie éternelle. Mais en ce moment même, une pierre lancée par le bras vigoureux d'Avalstedt vient frapper le réformateur à la tête et fermer ses lèvres qui s'ouvraient pour prononcer le nom de Dieu qui console. Le coup fut si fort que son casque, porté à lucerne comme trophée, en a gardé la marque. Zwingle se relève néanmoins, mais deux autres coups l'atteignent à la jambe et le jettent de nouveau par terre. Deux fois il se remet debout. Frappé une quatrième, mais d'un coup de lance, il chancelle et, fléchissant sous tant de blessures, il tombe sur ses genoux. Le voilà cet homme puissant qui avait rêvé la délivrance de toute la chrétienté. Il se meurt. Des ténèbres l'entourent et en annoncent peut-être d'autres, bien plus terribles, qui vont couvrir l'Église. Zwingle se détourne de ses tristes pensées. Il sait que le Christ est sa vie. Il regarde, d'un œil calme, son sang qui ruisselle, et s'écrie avec foi. Quel mal est cela? Ils peuvent bien tuer le corps, mais ils ne peuvent tuer l'âme. Ce furent ses dernières paroles. À peine les avait-il prononcées qu'il tomba à la renverse. C'est là, sous un arbre, le poirier de Zwingle, dans une prairie près de la route, qu'il demeura couché sur le dos, vivant encore, les mains jointes et le regard tourné vers le ciel. Les soldats débandés des deux parties passaient près du réformateur avec des cris de détresse ou de vengeance. Goldli avait pris la fuite dès le commencement de la bataille. Bientôt après, il quitta Zurich pour toujours. Le commandant en chef, Lavater, après avoir vaillamment combattu, était tombé dans le fossé. Il en avait été retiré par un des siens, auquel il avait lui-même sauvé la vie 8 ans auparavant, et s'était échappé. Le reste des Zurichois, après une résistance inutile, fuyait dans toutes les directions. Chacun faisait comme il pouvait, dit Bullinger. Les Wallstedt, acharnés à la poursuite de l'ennemi, foulaient aux pieds les corps qui jonchaient les prairies de Capel. Leurs colonnes s'avançaient, étonnées de leur prompte victoire. Le bruit des armes et les cris des vaincus et des vainqueurs retentissaient aux oreilles du réformateur blessé, et au milieu de tout ce tumulte, Zwingle était seul avec Dieu. Arrivé au-delà de Usen, au pied du Petit Albi, l'armée des 5 cantons s'arrêta. Si la nuit ne fut pas venue, dit Tschudi, presque tous les défenseurs de Zurich auraient mordu la poussière. On n'apercevait plus que quelques Zurichois gravissant précipitamment la montagne et disparaissant çà et là derrière les sapins. Il est temps, dirent les chefs, de regagner nos drapeaux. Mais auparavant, rendons grâce de notre victoire. L'armée le fit, puis, ivre de joie, poussant des cris d'allégresse et comme en triomphe, elle retourna aux granges. Pendant que les plus braves avaient donné la chasse aux soldats de Zurich, les traînards des 5 cantons s'étaient abattus comme des corbeaux avides sur le champ de bataille. Des flambeaux à la main, Ces malheureux s'avançaient au milieu des ténèbres et des cadavres, jetant tout autour d'eux des regards irrités et éclairant leurs victimes expirantes de la lueur blafarde de ces torches funèbres. Ils tournaient et retournaient les morts et les blessés, les tourmentaient et les dépouillaient. Parmi leurs victimes se trouva Balthazar Keller. Les Wallstedt le crurent mort et le laissèrent nu. Mais pendant la nuit, Keller revint à lui, se traîna, avec des efforts inouïs jusqu'à l'Albis, passa les Schnabel, et arriva non loin du lac de Zurich, au moulin de Gatikon, où on le pansa. Il fut, plus tard, bailli à Grüningen, conseiller à Zurich. Et c'est par lui que nous savons que la dernière œuvre de Zwingli sur la terre fut de se baisser avec compassion, comme le bon samaritain, vers un homme à demi-mort. Ce n'était pas ce que faisaient les Wallstedt. S'ils trouvaient des Zurichois en état de les entendre, « Invoquez les saints, leur disait-il, et confessez-vous à nos prêtres. » Quelques-uns, par crainte de la mort, leur obéirent. Mais quand des réformés, fidèles à leur foi, s'y refusaient, ces hommes les perçaient de leurs épées ou les assommaient de leurs arquebuses. L'historien catholique romain Sala de Lucerne en triomphe. « On les laissait mourir, dit-il, comme des chiens d'infidèles, ou on leur donnait de la pique ou de l'épée le coup de la mort, afin qu'ils s'en allassent d'autant plus vite au diable avec le secours duquel ils s'étaient battus comme quatre. » Aux haines religieuses se joignirent les animosités privées. Des hommes des cinq cantons reconnaissaient-ils des Zurichois auxquels ils gardassent rancune? Ils s'approchaient, l'œil sec, la bouche dédaigneuse, ou les traits altérés par la colère, de ces malheureux qui luttaient contre la mort, et ils leur disaient « Eh bien, votre foi hérétique vous a-t-elle sauvé ?» Ah, l'on a bien vu dans cette journée quels sont ceux qui ont la foi véritable. Aujourd'hui, nous avons jeté dans la boue votre évangile, et vous voilà, vous-même, tout couvert de votre propre sang. Dieu, la Vierge et les saints vous ont puni. » Et à peine avaient-ils tenu de tels discours qu'ils plongeaient le fer dans le sein de leurs ennemis. La messe ou la mort, tel était leur mot d'ordre. Quelques-uns des gens de la campagne furent épargnés, mais on fut sans miséricorde pour tous ceux de la ville. Ainsi triomphaient les Wallstedt, mais les Zurichois fidèles, qui rendaient l'âme sur le champ de bataille, se rappelaient qu'ils avaient pour Dieu celui dont il est dit « Si vous souffrez le châtiment, Dieu vous traite comme ses enfants. Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » C'est dans la fournaise de l'épreuve que le Dieu de l'Évangile cache l'or pur de ses plus précieuses bénédictions. Ce châtiment était nécessaire pour détourner l'Église de Zurich des voies larges du monde et la ramener dans les sentiers étroits de l'esprit et de la vie. S'il s'agit d'une histoire du siècle, une défaite comme celle de Cappel se nomme un grand malheur. Mais dans une histoire de l'Église de Jésus-Christ, un tel coup porté par la main d'un père doit plutôt être appelé une grande bénédiction. Pendant ce temps, Zwingli, le regard toujours tourné vers le ciel, était étendu sous le poirier. Les soupirs des mourants, ces pâles lueurs qui se transportaient d'un cadavre à un autre, Zurich humilié, la réforme perdue, tout lui criait que Dieu punit ses serviteurs lorsqu'ils ont recours aux bras de l'homme. Sans doute, si le réformateur saxon avait pu s'approcher de Zwingli en cette heure solennelle et lui avait dit ces paroles qu'il a tant de fois répétées, les chrétiens doivent combattre, non avec le glaive ou avec l'arquebuse, mais avec la souffrance et avec la croix. Zwingle lui eût tendu sa main mourante et eût répondu « Amen ». Deux des soldats, qui rôdaient au milieu des cadavres, étant arrivés près du réformateur, et s'apercevant, sans le reconnaître, qu'il était près d'expirer, « Veux-tu que nous t'amenions un prêtre pour te confesser ?» lui dirent-ils. Zwingle, sans parler, il n'en avait plus la force, fit signe de la tête que non, et resta, le regard fixé sur le ciel. « Si tu ne peux plus parler, » reprirent les soldats, « pense au moins dans ton cœur à la Mère de Dieu, et invoque les saints, afin qu'ils intercèdent pour toi et t'obtiennent grâce devant Dieu. » Zwingle branla de nouveau la tête et demeura les regards attachés au ciel. Alors les soldats se mirent à le maudire. « Sans doute, dirent-ils, tu es un de ces hérétiques de la ville. » Puis l'un d'eux, curieux de savoir qui il était, se baissa et tourna la tête de Zwingle du côté d'un feu qui était près de là. Aussitôt, le soldat, le laissant retomber par terre, « Je crois, » dit-il étonné et saisi, « je crois que c'est Zwingle. » En ce moment, le capitaine, Fokinger d'Underwald, ancien soldat et pensionnaire, s'approchait. Il avait entendu le dernier mot du soldat. « Zwingle » s'écria-t-il, « Zwingle, ce vil hérétique, ce scélérat, ce traître !» Puis, aussitôt, levant son épée si longtemps vendue à l'étranger, il en frappa à la gorge le chrétien mourant. « Meurs, hérétique obstiné !» lui cria-t-il. Succombant sous ce dernier coup, le réformateur rendit l'esprit. Ainsi, dit le chroniqueur, Hurley Zwingle, fidèle pasteur de l'église de Zurich, fut frappé au milieu des brebis de son troupeau, avec lesquelles il resta jusqu'à la mort, et périt de la main d'un pensionnaire pour la confession de la vraie foi en Christ, seul sauveur, médiateur et intercesseur des fidèles. Les trois Valstedt considéraient le cadavre inanimé de leur ennemi. En ce moment, dit Sala, l'enfer tressaillit. Et si Dieu n'avait pas fait à Zwingle la grâce de mourir en la compagnie des braves, il y aurait eu plus de diables autour de son corps que de morts sur le champ de bataille. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible parle. Toute sorte de mort des bien-aimés de l'Éternel, dit-elle, est précieuse devant ses yeux. Les soldats coururent bientôt à d'autres victimes. Tous ne montrèrent pas la même barbarie. La nuit était froide. Une forte gelée blanche couvrait les prairies et s'attachait au corps des mourants. L'historien protestant Bullinger nous apprend que quelques Valstedt prirent avec bonté les blessés dans leurs bras, bandèrent leurs plaies et les conduisirent vers les feux pour leur rendre l'usage de leurs sens. « Ah ! S'écriaient-ils, pourquoi des Suisses se sont-ils ainsi entr'égorgés ?» Il était tard quand les tambours battirent le rappel. Les chefs ordonnèrent de cesser le carnage. Une partie de l'armée, traînant les prisonniers après elle, se retira dans le monastère, et l'église, les cellules, les corridors, les cours, se remplirent de Valstedt et de Zurichois, pêle-mêle pressés. Le gros de l'armée resta près des drapeaux. Les soldats entouraient de leurs cercles animés les flammes qui s'élevaient çà et là et s'entretenaient de leurs exploits. Les canons muets penchaient leurs bouches vers la terre. Les chevaux du train avançaient de temps en temps la tête vers ces groupes babillards. De tous côtés, des vaches, des bœufs, des brebis, des chèvres, ramassées dans les prairies environnantes, étaient traînées sur le champ de bataille et remplissaient les airs de leurs cris prolongés. On les abattait et on faisait tourner leurs membres dépecés devant les feux du bivac. Quel dommage, disait en se chauffant quelques soldats, que tant de braves gens dont la Suisse se glorifiait aient misérablement péri. Au contraire, disaient d'autres, c'est un grand bonheur. Mais tout à coup, ces discours du bivac étaient interrompus par les lamentations et les sourds gémissements des blessés. Les mots qu'ils proféraient suffisaient pour les faire reconnaître. Ô Dieu, disaient les Uriquois, aie pitié de nous, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ô bienheureuse Mère de Dieu, ô Saint Jacques, Prince du Ciel, ô vous tous les saints, s'écriaient les Valstedt. On transportait ces pauvres blessés, Valstedt et Uriquois, au couvent de Capelle, et, quand leurs exclamations s'étaient éloignées, les soldats, tisonnant les feux, reprenaient leurs entretiens. Cette victoire nous perdra, disaient quelques-uns, car les Uriquois et leurs alliés sont puissants. Ne craignez pas, répondaient d'autres, les plus turbulents sont étendus, sans vie autour de nous. La fortune est sur une roue, répliquaient les premiers, en branlant la tête. Ô nuit tragique et lamentable! S'écrie le chroniqueur. Pendant ce temps, les chefs réunis dans le couvent écrivaient des lettres destinées à répandre partout la nouvelle de leur éclatant triomphe. Au point du jour, des messagers les portèrent au canton confédéré et aux puissances catholiques romaines de l'Allemagne. Enfin, la lumière parut. Les Valstedt se répandirent sur le théâtre de leur victoire, allant çà et là, s'arrêtant, examinant, frappés souvent de surprise, en voyant leurs ennemis les plus redoutés, étendus, sans vie, mais aussi versant quelquefois des larmes à la vue des cadavres qui leur rappelaient de vieilles amitiés. Une foule immense se rassembla vers le poirier sous lequel Zwingle était mort. Il a l'air, dit Barthélemy Stoker, dessus, qu'il avait aimé. Il a l'air, non d'un mort, mais d'un vivant. Tel il était quand il embrasait le peuple par le feu de son éloquence. Jean Schönbrunner, ancien chanoine de Zurich, qui s'était retiré à Sceaux à l'époque de la Réformation, ne put retenir ses larmes. « Quelle qu'ait été ta croyance, dit-il, je sais, ô Zwingle, que tu as été un loyal confédéré. Que Dieu ait ton âme. » Mais les pensionnaires de l'étranger avaient d'autres préoccupations que le corps de l'hérétique, coupé en 5 parts, soit envoyé à chacun des 5 cantons, disait-il. Paix aux morts et qu'à Dieu seul leur jugement demeure. S'écrièrent Lavoyer Golder et le lendemain d'Os de Juc. On leur répondit par des cris de fureur qui les obligèrent à s'éloigner. Aussitôt la caisse battit au champ. On jugea le cadavre et l'on arrêta qu'il serait écartelé pour trahison envers la Confédération, puis brûlé pour hérésie. Le bourreau de Lucerne accomplit ce jugement. Les flammes consumèrent les membres disjoints de Zwingle. On y mêla des cendres de porc, et une multitude, effrénée, se précipitant sur cette poussière, la jeta aux 4 vents. Zwingle était mort. Une grande lumière s'était éteinte dans l'église de Dieu. Puissant par la parole, comme les autres réformateurs, il l'avait été plus qu'eux par l'action. Mais cette puissance même avait fait sa faiblesse, et il avait succombé sous l'excès de sa force. Zwingle n'avait pas 48 ans. Si la force de Dieu marchait toujours avec la force de l'homme, que n'eût-il pas fait pour la régénération de la Suisse et même de l'Empire? Mais il avait saisi une arme que Dieu a interdite. Il avait abandonné sa vocation divine pour en prendre une charnelle. Le casque avait couvert son front et sa main avait saisi la hallebarde. Le patriote avait égaré le réformateur. Ses amis les plus dévoués s'écriaient eux-mêmes, étonnés, interdits. Nous ne savons que penser. Un évêque sous les armes. La foudre avait frappé, et le corps du réformateur n'était plus qu'une poignée de cendres dans la main d'un soldat ennemi.